Le front des sciences. Aujourd'hui, la République a-t-elle besoin de savants ? Une émission de Catherine Paoletti avec Marie Farge, physicienne, spécialiste de turbulence, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique de l'École normale supérieure de Paris. Philippe Lazard, statisticien et épidémiologiste, ancien directeur général de l'INSERM et actuellement président de l'Institut de recherche pour le développement. Et Éric Briand, maître de conférence à l'EHESS, historien des rapports entre la science et l'État, éditeur de Histoire et mémoire de l'Académie des sciences aux éditions Lavoisier, auteur de La mesure de l'État aux éditions Albin Michel. Sous un titre quelque peu provoquant « La République a-t-elle besoin de savants ?», Michel Daudet, Philippe Lazard et Pierre Papon viennent de publier aux Presses universitaires de France un ouvrage qui a le mérite de lancer un débat aux enjeux brûlants, puisqu'il tente d'interroger les relations qu'entretiennent l'État, les systèmes de recherche scientifique et le monde économique. Quel peut être le rôle de l'État dans l'organisation de la recherche scientifique et technique ? Comment favoriser le développement de liens étroits entre la science et l'économie sans pour autant assujettir l'une à l'autre? Quel type d'incidence une logique de la rentabilité immédiate peut-elle avoir sur la recherche? Le système français constitue-t-il un frein à l'innovation? Les chercheurs sont-ils décidés à faire preuve de réalisme et à abandonner le confort d'un certain corporatisme? Quelle stratégie scientifique peut-on se permettre? Autant de questions sur lesquelles vous nous invitez à réfléchir, Philippe Lazard, au moment même où la constitution de l'Europe, une économie mondiale dominée par les mécanismes du marché et la compétitivité, les développements de la science et des techniques déstabilisent nos modes de représentation, ont et auront des incidences sur notre vision de l'univers, du monde qui nous entoure, de l'homme, mais surtout sur l'organisation de notre société. Alors, faut-il vraiment qu'il y ait tant de raisons d'inquiétude pour devoir porter le débat sur la place publique, Philippe Lazard ?
Je ne dirais pas que ce sont des questions d'inquiétude, je dirais que ce sont des questions, et je crois que vous avez parfaitement résumé, et il nous a semblé, à mes deux complices, Michel Daudet, Pierre Papon, et moi-même, qu'il était nécessaire que la société, qui se veut démocratique, puisse s'emparer de ces questions, et en débattre. Et comme toujours dans les questions un petit peu difficiles, pour qu'une société puisse débattre, je ne dirais pas sans passion, même avec passion, mais sur des bases sérieuses et solides, encore faut-il qu'elle soit informée, que les citoyens puissent avoir à leur disposition un certain nombre de ces informations de base. Nous avons effectivement donné à ce livre un titre un peu provoquant, inspiré de la phrase qui a été ou qui n'a pas été prononcée au moment où Lavoisier est monté sur l'échafaud. La République n'a pas besoin de savants, ce qui concluait de façon évidemment violente toute espèce de vérité de sauver le savant. Nous pensons que la République a besoin de savants. Je veux dire que le fait de poser la question de cette façon est évidemment une façon de répondre. Mais nous estimons qu'il est parfaitement légitime que la société française, aujourd'hui, en cette fin de siècle, comme on dit à l'aube de la prochaine décennie, ou si on est un peu plus ambitieux du prochain siècle ou du prochain millénaire, s'interroge sur la place de la science en son sein et sur la façon dont les citoyens peuvent, sans exercer de violence vis-à-vis de ce mouvement fondamental de l'aventure humaine, de l'esprit humain qui consiste à essayer de comprendre ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, pour reprendre la phrase du bon abbé Moreux, à ce moment de notre histoire, pour que les citoyens puissent, de façon plus responsable, prendre leurs responsabilités. Et comme vous l'avez très bien dit, sans du tout établir une chape de plomb sur cette science qui, par certains aspects, peut les inquiéter, puissent dire leurs mots à leur place dans l'évolution de la science dans la société, c'est-à-dire dans l'évolution de la façon dont la société gère la science, c'est-à-dire apporte des éléments d'entretien à l'ensemble du monde scientifique pour lui permettre d'avancer, tout en se servant, tout en utilisant ses apports vis-à-vis de sa propre évolution. Alors nous avons essayé de passer en revue un certain nombre des grands problèmes qui peuvent se poser aujourd'hui, peuvent être conçus comme les problèmes importants se posant à la science dans la société. Nous insistons bien sur le fait que la science n'est pas une sorte d'entité extérieure à la société, qu'elle est toujours dans la société et beaucoup plus dans chacune des sociétés qui constituent la planète qu'on ne pourrait le croire. Nous essayons d'ailleurs ici ou là de le montrer et d'en déduire un certain nombre de conséquences. Nous essayons donc de poser un certain nombre des grandes questions qui se posent.
Mais la situation est complexe. Donc, comment vous concevez justement cette intervention citoyenne ?
Eh bien, par le débat, essentiellement par le débat. Parce que pour nous, je crois qu'on peut dire de façon un peu lapidaire que la démocratie, c'est la sublimation des conflits en débat. Et avec des processus de décision qui s'en suivent. Si l'on veut véritablement parler de la science, mouvement de l'esprit, mais en même temps prendre acte du fait qu'elle est intervenue au cours du dernier demi-siècle de façon extrêmement forte dans l'évolution de nos sociétés, et qu'on sent bien qu'elle va intervenir de façon au moins aussi forte, sinon plus forte, dans l'évolution des sociétés pour le siècle à venir, si l'on veut en parler de façon sérieuse, eh bien il faut poser ensemble un certain nombre de questions, voir jusqu'où les citoyens en tant que tels peuvent intervenir, en tant que tels, c'est-à-dire dans le débat, par petits groupes, dans toutes les entités où ils peuvent se réunir, comment ils peuvent intervenir en tant qu'acteurs politiques, c'est-à-dire au travers de ce qui constitue l'essence même du fonctionnement opérationnel d'une démocratie, c'est-à-dire la délégation à des assemblées représentatives, à un gouvernement, et comment ils peuvent intervenir aussi, je dirais, au travers du transfert des informations vers les générations à venir, par l'éducation, la formation, l'acculturation à la science. Et je dirais par ce que nous espérons, c'est-à-dire une véritable prise de conscience du fait que la science fait partie de la culture et ne peut pas être considérée comme une sorte d'espace clos qui ne servirait qu'à progresser du point de vue économique et qui ne s'inscrirait pas profondément dans l'aventure humaine.
Mais alors, le problème, c'est que malgré tout, il y a beaucoup de données qui échappent aux citoyens, tel que vous le définissez. Oui. Bon, il y a le problème de la mondialisation, dont on parle souvent, et puis il y a le problème de l'histoire des institutions, il y a des questions politiques. Donc, là-dessus, comment le citoyen peut-il avoir prise ?
Eh bien, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui échappent aux citoyens, mais ça n'est pas spécifique de la science. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui échappent aux citoyens du point de vue de l'économie, il y a beaucoup de choses qui échappent aux citoyens même du point de vue de l'organisation du politique. Et pourtant, la démocratie reste un système enviable. Je veux dire, pour reprendre la fameuse expression de Churchill, le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Ce qui veut dire que nous avons, pas seulement dans le domaine de la science, dans le domaine de la société en général, nous interroger sur la façon dont les citoyens peuvent effectivement intervenir. De deux façons, très schématiquement. D'une part, du point de vue de l'exercice ordinaire du fonctionnement des institutions par le principe de la délégation. Et c'est bien pour ça que moi je crois très fortement, nous croyons très fortement à la démocratie par délégation, c'est-à-dire au rôle absolument fondamental des intermédiaires. Mais en même temps, pour donner des consignes à ces intermédiaires et pour être capable de suivre de façon consciente et responsable ce qui se passe dans une société, les citoyens ont une sorte de devoir de s'informer et d'essayer de comprendre, chacun à la mesure de ses possibilités, et on ne comprend jamais mieux que par le débat.
Il serait peut-être maintenant utile de mettre à l'épreuve les questions que vous avez soulevées, Philippe Lazard, à partir d'exemples concrets. Bon, prenons d'abord un exemple qui a concerné et affecté directement le travail de recherche de Marie Farge. Donc, il vous sera demandé, en quelque sorte, d'être l'expert de la situation. Dans ce cas, il s'agissait de mettre en place un outil et d'élaborer une structure inexistante jusqu'alors, qui permette à tous les chercheurs qui avaient recours dans de très nombreux domaines à l'expérimentation numérique de ne pas être obligés, dès que leurs calculs devenaient trop lourds, de devoir se rendre aux États-Unis pour les effectuer sur des ordinateurs vectoriels. Alors, Marie Farge, cette histoire...
Bon, il va falloir que je résume assez brièvement, mais ça m'oblige quand même à revenir à la fin des années 70, où la situation d'un chercheur comme moi, à l'époque, je faisais ce qu'on appelait à l'époque une thèse de troisième cycle. Mon domaine de travail, c'est l'expérimentation numérique. Il faut que je définisse En un mot, ce que c'est l'idée qu'on va travailler à partir des équations, mais de façon essentiellement expérimentale, sachant que ces équations décrivent la réalité. Typiquement, l'équation fondamentale de la mécanique des fluides s'appelle l'équation de Navier-Stokes, et elle décrit tout ce qui se passe depuis ce qui se passe dans votre tasse de café jusqu'à éventuellement la formation de galaxies qu'on peut considérer comme un fluide fait d'étoiles. C'est une équation tellement générale qu'elle peut s'appliquer à beaucoup de domaines, en particulier à la météorologie, qui est l'objet de recherche de mon laboratoire, tout ce qui est aéronautique et tout ce qui est mécanique des fluides. Donc, on dispose d'une équation et on va utiliser les ordinateurs pour la résoudre, et c'est dans l'analyse des solutions, la compréhension des solutions de ces équations, que va se passer le processus de recherche, qui va consister à essayer de trouver des modèles simplifiés pour essayer de prévoir ce qu'il se passe dans ces différents types d'écoulements, donc allant de l'astrophysique à la mécanique des fluides, et essayer de valider des modèles beaucoup plus simples qui vont faire un exemple typique de calculer un Airbus avec des temps de calcul réalistes, ou prédire le temps demain avec des codes de calcul qui vous permettent de prévoir le temps qu'il va faire avant que le temps soit déjà arrivé. En gros, c'est ça le problème. Alors, de tels calculs sont en fait énormes en tant que quantité d'opérations à effectuer et quantité de données à traiter. Donc, on avait besoin de moyens qui sont assez spécifiques, que les ordinateurs classiques de l'époque, donc je parle de la fin des années 70, ne permettaient pas. Il y a eu un changement, un nouveau type de machine qui est apparu aux États-Unis à partir de 76, qui s'appelait les calculateurs vectoriels, et les ordinateurs CRAE dont vous avez probablement déjà entendu parler. Et en France, il y a eu un groupe de chercheurs qui s'est organisé sous forme... Alors je ne sais pas, je n'aime pas trop employer ce langage politique, mais disons sous forme peut-être groupe de pression pour reconnaître ce besoin. Et ces chercheurs, avant, allaient calculer aux États-Unis. On avait accès à plusieurs machines, soit au Centre national de météorologie, du moins NCAR, qui est à Boulder, soit au Centre européen de météorologie, qui était à Reading, soit aussi beaucoup dans les centres militaires comme Los Alamos, qui nous laissaient des heures de calcul. Et donc, ce groupe s'est organisé pour essayer de convaincre le politique d'avoir un ordinateur vectoriel pour la recherche. L'EDF avait déjà son ordinateur vectoriel. Le premier CRAE arrivé en France est arrivé en avril 80 et était possédé à la fois par l'EDF et la CISI étant le CEA, pour calculer en particulier tout l'aspect mécanique des fluides au niveau des échangeurs de chaleur dans des centrales telles Superphénix. Eh bien, quand les chercheurs ont vu que les industriels avaient un CRAE, on s'est dit « et pourquoi pas nous ?» Donc on est un peu monté au créneau, on était à la fin de l'été 80, et il y a eu des premières réunions de concertation avec la DGRST, où des chercheurs ont dit on souhaiterait aussi un CRAE pour la recherche, et on a monté, ça a été fondé à partir de 1983, un GIE, c'est-à-dire un groupement d'intérêt économique, qui avait cette spécificité que je trouve assez exemplaire, de réunir à la fois des chercheurs du milieu académique, en l'occurrence le CNRS et l'Éducation nationale, et également des chercheurs du milieu industriel, à savoir la météorologie nationale, le CEA par l'intermédiaire de la CISI, l'INRIA qui est l'Institut national de recherche en informatique, et il y avait aussi une petite part qui revenait à l'école polytechnique et une petite part à la DGA, c'est-à-dire la délégation générale de l'armement, 5% des parts simplement. Donc, on a partagé cette machine de 83 à 93.
Et ce qui était important aussi, c'est que finalement, ça leur permettait d'éviter de détourner une partie de leur budget de laboratoire pour s'offrir les calculs.
Alors voilà, il faut que j'explique un point plus précis, c'est que cet outil, on l'a conçu dès le départ comme un grand équipement scientifique. C'est-à-dire que la demande qu'on faisait aux politiques, c'était de dire « attention ». L'expérimentation numérique n'est pas de la même nature que quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur pour faire un petit calcul sur le coin de son bureau. L'ordinateur est l'outil central de notre travail, comme prenez le cas, je ne sais pas, quelqu'un qui fait de la physique des particules, s'il n'a pas d'accélérateur de particules, il ne peut pas faire grand-chose, en tout cas un expérimentateur. Un astronome, c'est la même chose. Un astronome sans télescope a quelques problèmes. Donc on avait demandé la reconnaissance en tant que grand instrument scientifique. Et ça changeait complètement le mode de fonctionnement. Parce qu'à ce moment-là, on n'achetait plus des heures de calcul, ce qui était le cas d'un mode de fonctionnement classique avec un centre de calcul comme celui du CNRS qui existait à l'époque à Orsay, qui s'appelait le CIRSE. Et on a créer ce centre dans l'esprit grand instrument partagé par des partenaires. Et c'est pour ça qu'on a eu cette structure de GIE, Groupement d'intérêt économique, et on a mis au point des modes de fonctionnement, et c'est là où je reprends ce que disait Philippe Lazard, qui m'a impressionné, parce qu'il a insisté sur l'aspect démocratique, la nécessité de faire fonctionner la recherche de façon la plus démocratique possible. Et je trouve que cette expérience du C2VR, ça s'appelait le Centre de calcul vectoriel pour la recherche, avait dans ses fondements, dans la façon dont on l'a conçu dès le départ, ces éléments démocratiques. Je vais essayer d'aller très vite en résumant ce que j'entends personnellement par démocratie. La base de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Ce centre de calcul était structuré autour d'un comité de direction qui faisait fonctionner le centre. C'était un pouvoir. Un deuxième comité était le comité scientifique qui attribuait les heures de calcul sous forme de dossiers que chaque chercheur de France pouvait soumettre à ce centre en justifiant sa demande. Et c'était ce comité scientifique qui décidait de la répartition des heures et qui disait éventuellement à un projet non, votre projet n'est pas solide suffisamment pour obtenir accès à cette machine. Et le troisième comité était le comité des utilisateurs où on servait de contre-pouvoir qui nous permettait d'observer ce qui se faisait au niveau du comité de direction, les orientations dans par exemple le choix de la prochaine machine ou des éléments aussi importants que ça, et également dans les processus d'attribution des heures s'il y avait on était là pour éventuellement contrôler des dérapages éventuels. Alors ça c'est un premier élément de démocratie. Un deuxième élément de démocratie qui me semble tout aussi important, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il y avait circulation de l'information, et c'était assez élégant parce que il faut imaginer aussi que les partenaires étaient de milieux très différents, de cultures assez différentes, sachant qu'il y avait des milieux industriels, et que j'ai trouvé, pour avoir vécu cette époque-là dans ce contexte, que c'était la façon la plus naturelle de faire parler des chercheurs académiques à des chercheurs industriels. Le fait de mettre en commun un outil partagé par tous ces gens les obligeait à parler. Et Philippe Lazard a insisté sur l'importance de parler. Et en démocratie, il a dit une phrase qui est très jolie, que la sublimation des conflits se fait par le débat. Oui, mais alors moi, j'ai expérimenté ce débat toutes ces années-là.
Mais alors le problème, c'est que cette situation n'a pas duré puisqu'elle n'a pas été renouvelée.
Bon, alors là, je ne me permettrai pas de faire l'analyse politique sous-jacente qui m'a complètement dépassée. Quand même, une impression générale, c'est que quand quelque chose marche trop bien, ça peut, et surtout, et marche de façon trop nouvelle. Il y a quelque chose d'assez novateur dans le fonctionnement du C2VR. Je retrouve des notes que j'avais rédigées sur le sujet il y a quelques années, parce qu'à la fin du C2VR, en 93, avec des collègues, j'avais organisé le forum du calcul numérique intensif à l'UNESCO, où on faisait le bilan de ces 10 années de fonctionnement. Et je vous lis simplement une des phrases que j'avais préparées pour le dossier de presse. J'avais rédigé à l'époque, ce projet jugé à l'origine irréaliste car trop novateur en matière d'organisation de la recherche, dans la mesure où il prévoyait de faire travailler ensemble des chercheurs CNRS, des universitaires et des partenaires industriels, permit en fait de solidariser une communauté scientifique qui n'existait pas auparavant, faute de moyens de calcul. Ce fut la naissance de l'expérimentation numérique en France. Et donc ensuite j'expliquais les développements qui ont eu lieu. Et il faut rappeler que quand on a créé le C2VR en 83, les États-Unis à l'époque ne disposaient pas de moyens de calcul au niveau des chercheurs académiques aussi importants. Et je me souviens très très bien de mes collègues américains qui nous enviaient d'avoir accès à un outil comme ça. Et je voudrais mentionner juste un point important, qui en 84, il y a une commission d'enquête qui a été lancée aux États-Unis par le département d'État pour tirer la sonnette d'alarme en disant « Attention, on est en train de perdre le contrôle des gros moyens de calcul aux États-Unis. Nos chercheurs n'ont pas assez de gros moyens de calcul. » Ça a donné lieu à ce qu'on appelle le rapport de Peter Lacks, dans lequel il mentionne explicitement l'expérience française comme un exemple. Et les Américains, ensuite, ont créé, à la suite de ce rapport, les centres de la National Science, les Supercomputing Centers de la National Science Foundation. Donc, même si nous, on n'a pas pu maintenir cette expérience au-delà des 10 ans, malheureusement, ça a quand même donné lieu à des développements ailleurs. Et je crois que surtout, maintenant, on ne peut plus gérer un grand équipement, un centre de calcul centralisé comme était celui du C2VR, en revenant au système précédent.
Alors, Philippe Lazard, comment vous pouvez expliquer ce type de blocage ?
Je n'entendais peut-être pas tellement l'idée de blocage. Je voulais dire blocage par le fait qu'il y ait eu que cette expérience se soit développée pendant 10 ans et n'ait pas été renouvelée. Bon, il ne m'appartient pas de porter de jugement sur la fin d'expérience, mais j'étais tout à fait passionné par ce qu'a dit Marie Fage. C'est un bel exemple, un peu spécifique quand même.
Comme tous les exemples.
Mais un peu spécifique dans la mesure où, malgré tout, son inspiration est très profondément, je le crois, d'ordre scientifique et d'ordre scientifique pour la science. Alors elle a bien dit participation de scientifiques et d'industriels, mais on a bien senti dans la passion de sa présentation que ce qui était central dans cette affaire, c'était l'affaire de la mise à disposition des chercheurs, quelle que soit leur origine, d'un grand équipement. Et c'est vrai que c'est un des grands problèmes auxquels la société doit faire face, qu'elle doit trancher, c'est-à-dire comment rassembler les éléments de financement nécessaires au soutien de grands équipements, dans la mesure où ces fortes concentrations de moyens ne se font pas de façon neutre par rapport aux autres besoins qui s'expriment.
Mais alors, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que à la fois c'était un financement mixte, à la fois privé et public. Donc c'est un cas, disons, réussi, harmonieux pour les chercheurs.
Oui, mais je voudrais quand même, puisqu'il faut qu'on discute un petit peu, j'étais ravi que Marie-Farge reprenne l'idée du débat comme un élément qui est un élément de progrès de la société. Je crois qu'il faut bien que nos auditeurs comprennent que le modèle de la physique, avec la nécessité pour la physique d'avoir des éléments de concentration extrêmement importants de moyens, sous forme, en l'occurrence, d'un grand équipement scientifique, le C2VR, moyen de calcul, ou le CERN à Genève, accélérateur de particules, ou les installations portant sur l'étude de la fusion nucléaire, ou les grandes installations portant sur l'astrophysique. Tout cela coûte extraordinairement cher, et c'est très bien qu'il en soit ainsi, parce que ce sont les besoins de cette science. Mais il faut quand même bien penser que toute la science ne se développe pas sur cet archétype, sur ce système de concentration de moyens qui est typique de celui de la physique, et qu'il y a dans le problème de l'insertion de la science dans la société d'autres problèmes types qu'il faut aussi aborder.
Oui, mais dans ce cas, ce qui était malgré tout aussi intéressant, c'est que ça ne concernait pas que les physiciens. Il y avait une pluralité de chercheurs qui ont à faire des calculs.
Ça ne concernait pas que les physiciens, mais ça concernait quand même majoritairement les physiciens, mais tant mieux. Simplement, cette catégorie particulière de chercheurs, qui a besoin de moyens extrêmement importants, n'est pas nécessairement représentative de, c'est tout ce que je voulais dire, de l'ensemble des problèmes d'organisation de la science dans la société.
Éric Briand.
Oui, moi je trouve que cet exemple a au moins un avantage, c'est qu'il touche vraiment le grand public, parce que les calculs de météo, c'est les calculs du lendemain, ceux que vous voyez à la télévision tous les soirs. Et bon, ça c'est l'exemple le plus spectaculaire, mais les autres exemples d'applications auxquelles répondait la nécessité de ce dispositif étaient directement issus de ce que vous qualifiez vous-même de demande sociale dans l'ouvrage que vous présentez. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que c'était avant tout une question de demande d'officiens. En plus, ce qu'il faut souligner, c'est que la donnée nouvelle que cet équipement a produit a ouvert des secteurs de recherche qui étaient imprévisibles au début. Moi, je trouve que l'exemple est intéressant pour une raison qui me frappe, c'est que, en gros, c'est un truc sur lequel personne ne savait trop où on allait au début. Il y avait des besoins très très forts, des besoins qui n'étaient pas accessibles pour les chercheurs qui s'intéressaient. Et puis ils sont associés, alliés dans ces conditions tout à fait extraordinaires que nous disait Marie Farge tout à l'heure. Et puis au fond, il y a eu un moment de quelques années d'autonomie de ces besoins-là. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait pas un contrôle autre que ce contrôle de type démocratique dont j'ai cru comprendre que c'était celui que vous appeliez en un certain sens dans votre ouvrage. Et manque de peau, ça ne dure pas 10 ans, un truc comme ça. Parce que dès que ça se stabilise un petit peu trop, il y a des enjeux institutionnels forts, alors des choses sur lesquelles on peut rentrer dans les détails, du type part de représentation dans tel ou tel conseil, etc., qui font que ça ne peut plus fonctionner selon le mode démocratique qui était celui du début. Et ça pose un problème à la fois en termes d'application, c'est-à-dire ça va changer les secteurs d'application, ça pose aussi un problème en termes de recherche théorique, c'est-à-dire ça va entraver la possibilité de développement de travaux théoriques. Donc, je trouve que l'exemple est éclairant parce qu'il montre la difficulté d'un exercice que j'approuve parfaitement, celui que vous défendez dans votre livre. Ce livre a un intérêt, c'est que tous ceux qui peuvent s'intéresser à la question des stratégies scientifiques ont là les instruments. C'est-à-dire, voilà les matériaux qu'il faut discuter, parce que c'est des choses qui ne se publient pas d'habitude. Je crois que c'est un des premiers livres qui fait ça. Et ça, c'est un geste qui est, à mon sens, capital. Cela dit, une fois que c'est fait, on entre dans le débat et on voit, on tombe sur l'écart qu'il y a entre vos deux discours, si je peux me permettre de comparer vos deux discours. C'est-à-dire, d'une part, des positions soucieuses, ouvertes, qui sont les vôtres, Philippe Lazard, et d'autre part, des enjeux vécus de manière très intense, passionnément, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le cas de Marie Farge. Et alors là, c'est terrible, parce que pour raisonner en termes stratégiques, en tenant les deux niveaux en même temps, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de solution.
Moi, je crois qu'il y en a précisément, parce qu'il me semble, si vous voulez, que le concept de démocratie, au sens général du terme, c'est-à-dire le contrôle de la société sur la science, et le concept de démocratie tel que l'a très bien décrit Marie Farge, ne sont pas tout à fait les mêmes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle a parlé de la démocratie interne de fonctionnement, et là, je suis totalement d'accord sur la façon dont elle a présenté ce projet, à mon avis, tout à fait remarquable, mais d'une certaine façon, j'aurais presque préféré qu'elle dise plus clairement, c'est un projet scientifique, et il faut que la société comprenne qu'elle a besoin, fondamentalement besoin, de projets scientifiques qui n'ont pas besoin d'avoir de justification d'application immédiate.
Mais
et je crois que c'était bien
elle,
ça, le projet immédiat. Et que ce soit utile en météorologie pour nous prévoir le temps de demain, d'une certaine façon, ça m'est égal. Ce qui est important, mais non, ce qui est important, c'est que ce soit un projet de haute qualité, qui ait été recruté, qui ait été financé parce que c'était un projet de haute qualité, qui à un moment donné constituait un choix parmi d'autres choix possibles. La seule chose que j'ai voulu dire, c'est que ce n'était pas le seul mode de choix que nous avions en termes de science. Il n'y a pas qu'à choisir entre des grands équipements. Il y a d'autres formes d'expression de la science. Mais qu'on ait fait à ce moment-là ce choix intelligent me paraît être une excellente chose. Et il n'a pas besoin d'être justifié à toute seconde, y compris par rapport à la démocratie politique, par le fait qu'il va être immédiatement utile. Et d'ailleurs, dans notre livre, nous disons bien, c'est le premier chapitre, nous vivons actuellement sous une pression utilitariste qui mérite une réflexion critique. Parce que nous savons bien, par l'histoire de la science et de ses applications, Pasteur l'a dit lui-même de façon tout à fait aveuglante en son temps, qu'on ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va être véritablement utile, entre guillemets, par rapport aux besoins de la société. Ce que l'on peut dire à coup sûr, c'est que de la science de mauvaise qualité, on n'en a pas besoin. Mais de la science de bonne qualité, on en a grand besoin. Et en l'occurrence, c'est à l'évidence, au moment où ce projet a émergé, et Marie Farge l'a parfaitement montré, c'était un choix audacieux, mais correspondant aux besoins de la science, pour la science.
Marie Farge.
Oui, justement, en tant que chercheur, je crois, et c'était pour ça que je donnais cet exemple de fonctionnement, et vous avez raison, en interne de ce centre, qui était construit sur un type démocratique, pour garantir la qualité, il faut que les choix soient ouverts, que les choix soient discutés, et que l'accès à cette machine soit donné au meilleur. C'était ça le mode de fonctionnement. Alors quand vous dites...
Alors est-ce que c'est démocratique, ça?
Non, mais on doit avoir des mécanismes.
C'est une démocratie très particulière.
Non, il y a des mécanismes qu'on sait marcher dans cette direction et d'autres qu'on sait ne pas marcher. Une chose, pour illustrer ce que vous disiez sur le fait que la recherche est imprévisible, je veux juste donner un exemple qui pour moi est un exemple d'école. Vous avez le CERN qui a coûté extrêmement cher à la société, où sont les grands accélérateurs de particules européens. Et vous savez probablement que le web, que tout le monde, je pense, maintenant connaît, est une retombée du CERN. Et je me souviens très bien de la fin des années 70, où le CERN, l'Angleterre s'était retirée, ne voulait plus payer sa quote-part, prétendant que le CERN n'était pas utile à la société, au sens aux industriels, ou que les retombées de la société n'est pas suffisante. Donc le hasard des choses a fait que le web est arrivé et que toute la société en bénéficie.
Accordez-moi que c'était une retombée inattendue.
Absolument inattendue, je donne ça comme exemple pour prouver votre point.
Le problème, c'est tout de même quand même la gestion de la recherche. Elle est gérée quand même en partie aussi par le système politique. Alors, il y a plusieurs types de logiques que développe Philippe Lazard dans son ouvrage. Une logique utilitaire de nature libérale, une logique culturelle et désintéressée, bon, dont la seule philosophie est de comprendre pour comprendre. Alors, c'est celle que les chercheurs naturellement défendent. Et puis, bon, une autre logique que vous intitulez la logique de la puissance et de la gloire. Mais alors, comment faire avec bien souvent ces trois logiques qui aussi s'interfèrent? Éric Briand.
C'est une très vieille question. C'est pour ça qu'on a créé l'Académie des sciences en 1666, etc. Et c'est d'ailleurs la question qui est en jeu dans le titre même de votre ouvrage. Parce que la République a-t-elle besoin de savants? Pendant la Révolution, les savants qui se font couper leur tête, ce sont des savants qui ont été très actifs dans la période pré-révolutionnaire et qui sont aussi les fondateurs de la situation républicaine de cette époque. Donc c'est une question cruciale. Le problème, Philippe Lazard parlait du caractère imprévisible de l'élaboration du web, ça c'est un exemple emblématique. Le problème de la gestion de la recherche, c'est qu'il faut gérer l'imprévisible. Bon. Et l'imprévisible, si vous demandez à quelqu'un de prévoir ce qu'il va faire, il va vous raconter n'importe quoi, et malheureusement, ce genre de n'importe quoi fait 90% des textes qui circulent dans ce secteur-là, et donc c'est carrément impossible. Vous ne pouvez pas à la fois avoir des secteurs qui sont fondés sur l'autonomie et l'élaboration imprévisible et en même temps une organisation administrative trop stricte. Or, et c'est là où je trouve que le livre est peut-être plus brûlant encore que veut bien le dire son auteur ou l'un de ses auteurs, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation tout à fait tragique. Le secteur de la recherche que nous connaissons est celui qui provient de l'après-guerre. Il est en train de se transformer très profondément, voire, disons, de disparaître, disons les choses clairement. Il y a des raisons à ça qu'on peut qualifier de mécanique, si on parle de mécanique sociale. La part de salaire dans le budget des organismes de recherche est tellement grande et va croissant pour des raisons de politique des personnels, tout à fait normal, parce que les corps de chercheurs vieillissent et donc ça fait de part de salaire qui augmente, ce qui fait que dans certains secteurs, comme dans les sciences sociales, par exemple, dans lesquels je travaille, la marge de manœuvre pour faire des investissements est très très faible, en termes de financer des recherches, etc. Et alors, ma question à Philippe Lazard, c'est, moi je comprends votre souci, et je le partage, je partage le souci d'insérer les considérations scientifiques dans la culture et le souci de débat démocratique. Mais je me demande si vous n'êtes pas un peu dans la situation, disons, à la Necker, c'est-à-dire on est en 88-89, vous voyez bien que les choses vont mal, ou tout au moins qu'elles sont perfectibles, par un appel, disons, aux états généraux, hein, on va dire ça comme ça, mais manque de chance, la réponse de Condorcet à l'époque, mais les gens qui sont susceptibles d'être aux états généraux, ils connaissent pas les enjeux de la politique. Alors, vous avez un geste qui est très comparable à celui, par exemple, de Condorcet à l'époque, c'est-à-dire qu'il fait un livre en disant, voilà comment ça marche l'Assemblée provinciale. Bon. Mais ils ont très vite été dépassés par les événements, et pour des raisons très bonnes, c'est-à-dire que des tas de gens, ici et là, avaient des vrais enjeux et ont voulu dire, ben ça c'est important, ce qui est exactement le type de problème qui se pose avec le cas du calculateur vectoriel qu'on a parlé. Mais on pourrait prendre d'autres secteurs. En discutant avant cette émission à des collègues, quelqu'un me dit, oui mais dans les sciences sociales par exemple, toutes les données sont détenues par l'administration. Bon, voilà une donnée. Mais aujourd'hui l'administration fait payer. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un prof en fac qui veut demander à ses élèves d'utiliser les données de l'INSEE, il faut payer. Et en plus, c'est des données qui sont même plus imprimées, qui sont souvent de bases de données. C'est-à-dire que ça ne durera pas. Hein. Alors, au moins, quand c'est imprimé, on peut toujours, quelques années plus tard, aller le chercher sous forme écrite. Donc là, il y a des transformations fondamentales, vraiment, dans lesquelles les enjeux... quand vous êtes sociologue et que vous voulez avoir du chiffre, vu les budgets que vous avez pour faire des enquêtes, c'est-à-dire zéro, ben, il faut utiliser les chiffres de l'INSEE. Bon. Donc, il faut aller passer par là. Un bon sociologue va monter 1000 machines pour arriver à ce résultat-là. De la même manière que dans le secteur de Marie Farge, on saute sur la ressource qui se présente. Eh bien, comment répondre concrètement à l'expression de ces enjeux, comment accueillir l'expression de ces enjeux qui est tellement diversifiée et qui, il faut bien le dire, ne s'exprime pas dans cette espèce de langue de bois qui est celle des demandes de subventions ou de financement d'organismes, même qui n'est, moi ça m'arrive de juger des dossiers de candidature qui ne s'expriment pas non plus dans les dossiers de candidature. C'est une pitié, quand on lit les dossiers de candidature au printemps, on se rend compte que les thésards candidats dans les postes euphémisent tellement leurs enjeux qu'ils disent même plus ce qu'ils veulent faire. Ils disent ce qu'ils pensent être, ce qu'ils pensent devoir, enfin, voir accepter. C'est terrible. Donc la situation est très très grave. Enfin, dernier point, on n'est pas dans la période des années 1780, c'est-à-dire qu'on n'a pas le savant et le citoyen. On a d'autres protagonistes. Par exemple, il y a les journalistes. Hein. Aujourd'hui, moi j'ai été sidéré de lire dans l'éditorial de la revue La Recherche, qui a quand même la fonction de promouvoir la recherche, on pourrait dire, hein, un éditorial qui demande la fermeture d'un établissement public de recherche. C'est-à-dire, c'est l'éditorial du mois dernier qui demande la fermeture de l'INED, concrètement. C'est scandaleux, je dis bien franchement, parce que c'est au mépris de toute réflexion véritablement démocratique, et il y a des enjeux qui sont formidables, parce que la démographie, c'est le calcul de la population, le calcul de la population, c'est vraiment des enjeux de tous les jours, y compris politiques, pour nous, donc c'est très important qu'il y ait des savants qui fassent ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à une situation où les journalistes peuvent faire la table rase de ça? Est-ce que ce ne sont pas les vraies difficultés que rencontre votre programme?
Vous illustrez parfaitement un mot qui est dans notre livre, et sur lequel j'ai insisté tout à l'heure. La recherche est dans la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité à part qui serait protégée, elle vit au rythme de la société. Nous sommes dans une société qui est bourrée de conflits, nous vivons en France dans une société démocratique, il n'y a pas tellement de pays démocratiques dans le monde. Nous savons que la passion utilitariste a gagné, et pour des raisons qui peuvent se comprendre, les organisations nationales mais aussi internationales. L'Europe, par exemple, est devenu en matière de recherche extraordinairement utilitariste, avec une nécessité de rentabilité très, très, très proche à court terme. Nous avons bien entendu à prendre conscience et à faire sa place au caractère dominant de l'information, des réseaux d'information et bien sûr au fait que nous vivons dans des sociétés fortement médiatisées où beaucoup de choses se font en fonction de ce que l'on va penser, ce que les journalistes, médiateurs de l'opinion, mais aussi acteurs de l'opinion, vont penser de ce que l'on va faire. Bon, tout cela fait partie du jeu réel de la science dans la société. Alors, il n'en reste pas moins que la science est cette aventure de l'homme et de l'esprit, qui est une création, comme d'autres créations, comme la création artistique, comme la création littéraire, avec quand même, à mon avis, ce mériterait d'être développé, une seule différence, mais tout à fait importante, qui est le statut de la vérité, pas tout à fait le même en art plastique, en littérature et en sciences. Il n'empêche qu'elle est mouvement de remise en cause de l'ordre social, qui est obligé en même temps de s'insérer dans l'ordre social. Donc elle vit en permanence sa contradiction. Comment peut-elle le vivre et comment peut-elle aller de l'avant? C'est une des raisons pour lesquelles, dans notre livre, nous insistons beaucoup sur le rôle de l'État. Et nous croyons que l'État, en tant qu'État stratège, a précisément parmi ses responsabilités la responsabilité de la gestion du temps. Et tout ce que vous dites, d'une certaine façon, se ramène au problème de la gestion du temps, et du temps à long terme. Et vous disiez tout à l'heure, Marie Farge, que la démocratie, c'est aussi la séparation des pouvoirs. Mais nous égrenons un certain nombre de vérités absolument fondatrices. La démocratie, c'est la sublimation du conflit en débat, c'est la séparation des pouvoirs, et l'État, c'est la capacité de préparer l'avenir à long terme, c'est-à-dire d'avoir des investissements qui ne soient pas immédiatement rentables, par opposition à ce que sont les forces sociales qui vivent leur vie à plus courte échelle. Je crois que la science est fondamentalement de la responsabilité de l'État de ce point de vue.
Je voudrais absolument insister sur cette notion de temps de la recherche. Alors, le temps de la recherche est extrêmement long, par le fait que si on a un programme scientifique fort, il se développe sur des années, et ça doit se faire même de façon assez collective. C'est-à-dire, si le programme est fort, ça va entraîner plusieurs personnes pendant de très longues années. Mais donc, on doit laisser une certaine souplesse au niveau des orientations en garantissant cette durée. Mais par contre, je considère qu'il y a obligation, et ça, on n'insiste peut-être pas assez là-dessus, sur le fait que le chercheur doit dire son programme. C'est au chercheur d'être conscient de quel programme de recherche il est en train de développer. Il ne peut pas garantir qu'il va trouver, mais il doit donner des garanties à la société qu'il sait exactement dans quelle direction il cherche. L'exemple du C2VR était peut-être, d'un point de vue, a peut-être donné l'impression qu'on était opportuniste. On a été opportuniste quant aux moyens, parce qu'on avait besoin de ces moyens depuis très longtemps, on ne les avait pas. Mais nos programmes de recherche étaient définis bien avant et on savait très bien ce qu'on cherchait.
Oui, mais alors quels moyens le chercheur a-t-il? Parce que le chercheur est aussi très naïf.
Non, je ne crois pas que le chercheur soit naïf. Le chercheur est dans sa logique, qui est une logique de connaissance. Et en tant que tel, comme vient de dire Marie Farge, il doit rendre des comptes, mais il doit rendre des comptes par l'intermédiaire. Là aussi, il y a délégation, par l'intermédiaire de ses pairs. Autrement dit, il n'est pas possible de dire « je suis chercheur » et puis « croyez-moi » et puis « moi, je sais ». Donc, vous m'apportez des moyens. Il y a des systèmes de contrôle, mais ce sont des systèmes de contrôle qui s'exercent dans le cadre d'un cénacle relativement fermé, c'est-à-dire qui sont exercés par ce qu'on appelle les pairs, P-A-I-R-S, les gens qui savent et qui peuvent contrôler de la même façon, d'ailleurs, qu'un créateur littéraire. Vous savez, il a besoin d'être publié par des éditeurs. Il n'est pas publié comme ça parce qu'il décide d'être publié, de la même façon qu'un peintre a besoin d'accrocher ses toiles dans des galeries, et il ne les accroche pas n'importe comment sans qu'on lui en donne la possibilité. Bref, les créateurs sont toujours mis en situation d'être jugés par des gens qui sont d'un cénacle, qui sont capables de juger, avec tout ce que ça représente à la fois de certitude ou de quasi-certitude en termes de qualité, mais aussi d'aléas et de phénomènes de mode. Mais je voudrais dire que les relations des chercheurs à la société ne se bornent pas à cela. Et je voudrais insister sur un point que nous développons aussi beaucoup, Dodé Papon et moi, dans le livre, qui est le concept d'expertise collégiale, d'expertise collective, d'expertise collégiale. C'est-à-dire qu'en réalité, quand la société pense à la recherche, et compte tenu de l'aura qu'a la recherche est sur un piédestal, elle est à la fois critiquée, elle fait peur, elle déstabilise, et en même temps, c'est la fin des fins, parce que les gens comprennent bien que c'est dans l'aventure humaine que d'essayer de comprendre. La recherche peut rendre des comptes à la société autrement que par sa capacité de la remettre en cause. En d'autres termes, quand on pense à la recherche, on pense presque toujours exclusivement au processus à long terme qui vient d'être évoqué. C'est un processus aléatoire qui, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, va révolutionner la façon dont nous voyons les choses. Ok, mais maintenant, aujourd'hui, demain, immédiatement, par rapport aux besoins des décideurs, qu'est-ce que la recherche apporte? Et la recherche, et ça c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup, c'est aussi des chercheurs, c'est-à-dire des personnes physiques qui, à un moment donné, sont des réservoirs de connaissances et des points d'accès instantanés, au réseau mondial des chercheurs. En d'autres termes, si on pose convenablement un certain nombre de questions à des chercheurs, et pour autant que l'on gère leurs réponses, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de les interroger individuellement, mais qu'on organise leurs réponses collectives, on peut avoir instantanément les bilans synthétisés, actualisés et critiques de l'ensemble des connaissances mondiales sur quelques questions que ce soit, immédiatement disponibles, évidemment, ça veut dire dans un délai de quelques semaines ou au plus de quelques mois, vis-à-vis de l'ensemble des décideurs économiques, sociaux et politiques. Et oui, cette richesse-là, cette capacité d'expertise, est très sous-utilisée par rapport à ce que l'on attend d'habitude de la recherche. Et nous insistons beaucoup sur le fait que cette expertise collective pourrait être en réalité une justification beaucoup plus forte de la recherche vis-à-vis de la société.
Mais il s'agit aussi d'être patient avec les chercheurs et d'accepter qu'ils aient le temps et qu'ils échouent de temps en temps.
Précisément, patient de ce point de vue-là, oui. Mais ce qui m'intéresse dans ce modèle que j'esquisse très rapidement de l'expertise, c'est que le chercheur intervient par sa capacité en tant qu'expert, pour autant qu'on ne le prenne pas tout seul, qu'on le prenne en le rassemblant avec quelques-uns de ses collègues pour faire le tour de la question que l'on veut poser, mais au fond, d'une certaine façon, si je veux aller jusqu'au paradoxe ou jusqu'à la provocation, ce que fait le chercheur en tant que chercheur m'importe assez peu. Son aventure personnelle m'importe assez peu. Ce qui m'importe, c'est qu'il soit fiable en tant que puits de connaissance et qu'en tant que point d'accès à la connaissance instantanée. Donc ce qui m'intéresse, c'est de tirer de lui ce qu'il peut apporter tout de suite. Ce n'est pas de le tuer en tant que poule aux œufs d'or.
Je crains que dans ce processus, vous risquez un petit peu de le tuer, parce qu'il faut, bon, si on parle vraiment de la journée d'un chercheur type, c'est qu'on est débordé par les rapports à faire. Si en plus on nous demandait ce type d'expertise, j'insiste sur un point que vous avez dit très justement et qui est extrêmement important pour nous, c'est le fait qu'on est jugé par nos pairs, donc par d'autres chercheurs, parce qu'on fait des choses quand même qui sont très techniques et qu'il faut avoir l'expertise dans ce domaine-là pour pouvoir juger de son travail. Mais ce jugement par les pairs se fait déjà au niveau international. C'est-à-dire la connectivité internationale est très grande, comme vous le dites très bien, au niveau des chercheurs. Maintenant, moi, je considère que c'est de la responsabilité des chercheurs, effectivement, d'être à la disposition de la société si on nous demande des avis sur des choses précises. Mais il faut faire très attention à la formulation des questions, parce que si les questions sont formulées de façon vague, on ne peut pas répondre.
C'est pour ça que j'ai dit de façon très précise que cette activité d'expertise collective devait être gérée. C'est-à-dire que ce n'est pas aux chercheurs en tant que tels à la gérer, ils doivent être à disposition. Certains de leurs collègues, au bout d'un certain temps de carrière, peuvent avoir envie de passer à cette forme d'activité. C'est d'ailleurs l'équipe devait être gérée. C'est-à-dire que ce n'est pas aux chercheurs en tant que tels à la gérer, ils doivent être à disposition. Certains de leurs collègues, au bout d'un certain temps de carrière, peuvent avoir envie de passer à cette forme d'activité. C'est d'ailleurs une voie d'évolution des carrières que nous évoquons et qui peut être tout à fait intéressante. Mais il est bien évident que l'activité d'expertise ne doit pas prendre le pas, ni même être dominante dans le travail d'un chercheur, mais je peux vous dire de façon très concrète que si elle est bien gérée, il s'agit d'un pour cent ou d'un demi-pour cent de l'activité et du temps de vie d'un chercheur. Donc franchement, ça ne mord pas sur l'activité, sur les 99% du temps qui doivent être consacrés à la recherche.
Alors Éric Briand,
j'en ai l'expérience. Je ne parle pas de façon théorique. J'ai développé, du temps que j'étais directeur général de l'INSERM, des procédures d'expertise collective qui non seulement ne prenaient pas beaucoup de temps aux chercheurs, mais prenaient très peu de temps à très peu d'entre eux, mais je dois le dire, en plus, étaient passionnantes pour ceux qui s'y livraient, parce que ça leur donnait l'occasion d'un développement de relations auxquelles ils n'auraient pas eu accès de façon directe.
Éric Briand.
Moi, je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur le temps et sur le risque qui se présente aujourd'hui de voir le régulateur du temps le plus long, c'est-à-dire l'État, disparaître dans cette affaire-là. Mais je trouve que le propos que vous tenez reste très abstrait. Et si vous voulez, comme chercheur, disons, comme personne qui réfléchit à l'histoire des sciences, je trouve ça très intéressant de voir votre contribution là, maintenant. Mais comme citoyen, je me dis, mais comment vous faites concrètement? Parce que d'un secteur à l'autre, les choses se passent totalement différemment. Il y a des secteurs dans lesquels aujourd'hui la compétence et l'expertise sont totalement inaccessibles à qui que ce soit, même aux autres chercheurs. On pense à l'énergie, on pense à des secteurs comme l'armement, etc. Si le mot stratégie revient dans votre livre très souvent, ma formation militaire me fait rappeler que pour être stratège, il faut voir l'entièreté du champ de bataille. Hein. Bon, or, on ne peut pas aujourd'hui avoir l'entièreté du champ de bataille. Si demain j'étais dans une situation où je pouvais imaginer des réformes de ces choses-là, je ne pourrais pas politiquement aujourd'hui attraper l'entièreté du secteur. Vous savez très très bien que les secteurs qui touchent les applications de plus haute technologie sont très souvent des terrains réservés dans lesquels même les autres scientifiques, par exemple même les physiciens du CNRS, même, etc., enfin je prends ces exemples, ceux-là ils sont patents, ils ne peuvent pas entrer. Bon, alors comment on fait avec ça, hein, pour créer ce moment d'expertise et de débat contradictoire?
Philippe Lazard.
Je crois que vous faisiez allusion, Éric Briand, au problème des secteurs sanctuaires auxquels nous n'avons pas accès. Bon, c'est un fait. Mais une stratégie, ça n'existe pas. Chacun a sa stratégie. Toutes les institutions ont leur stratégie. Et le problème, précisément, c'est qu'on parle sérieusement de stratégie. Or, vous parliez des militaires. Une stratégie, ça suppose d'abord qu'on sache quelle guerre on veut gagner. Je veux dire qu'on définit ses objectifs. Et une stratégie, c'est le rassemblement sur le terrain de la bataille à venir, des éléments qui sont à notre disposition, des moyens qui sont à notre disposition, qu'on peut mobiliser. Donc, le problème, c'est de se fixer des objectifs, et puis de voir quels sont les moyens disponibles ou mobilisables, et comment on peut les organiser à son échelle, dans le temps et dans l'espace. Et la société, dans sa complexité, celle à laquelle vous faisiez allusion à plusieurs reprises, Catherine Perretti, ben c'est justement qu'il y a un entrelacs de stratégies différentes. Les institutions de recherche, l'État, l'Europe, les régions n'ont pas les mêmes stratégies. Il faut simplement qu'on soit clair sur le fait que quand on parle sur des échelles de temps qui sont longues et quand on parle de politique de politique scientifique, de politique d'interaction entre la science et la société, on parle sur des échelles de temps qui sont longues. Eh bien, il faut essayer d'engager, et c'est là qu'il y a un débat démocratique à engager, un débat démocratique sur l'articulation, les conflits entre ces différentes stratégies. Il faut accepter de débattre de ces conflits. Et si on se pose des problèmes de cette façon, on peut les faire avancer, à mon avis, beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement qu'en restant dans la confusion.
Alors, le débat est complètement ouvert et donc chacun, vous allez définir ce que vous souhaitez défendre au cœur de ce débat. Marie Farge.
Bon, moi, je voudrais défendre, pour moi, la nature du métier de chercheur, c'est de travailler au niveau international. Et je dirais essentiellement au niveau international parce qu'on est chacun quand même très spécialisé dans notre domaine. Et si on veut parler à des interlocuteurs qui savent comprendre ce que vous dites et faire également avancer ce que vous dites, c'est-à-dire si la progression, elle est collective, mais elle est faite par d'autres chercheurs qui ne sont pas nécessairement en France, qui sont dans différents pays sur la planète. Et on a un mode de fonctionnement qui a, depuis très longtemps, est comme ça. C'est dans la nature de notre métier de travailler avec les interlocuteurs qui nous semblent les plus adéquats pour avancer. Au niveau des financements au jour d'aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est géré à différentes échelles. On dispose de financements côté français. Au niveau des financements de fonctionnement de la recherche, ça se réduit beaucoup. On a depuis pas mal d'années des financements européens qui fonctionnent pas mal. Ça a énormément apporté dans les contacts entre français, anglais, italien. Ça joue un rôle tout à fait important, sachant qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé, on travaillait essentiellement avec les États-Unis. Donc ce côté de financement a fonctionné. On est aussi financé par des contrats américains. J'ai aussi un contrat australien. Je veux dire, la recherche dans sa nature est délocalisée et internationale. Si on veut faire une recherche franco-française, on n'y arrivera pas parce qu'on n'est pas dans le courant principal de la recherche.
Éric Briand.
Eh bien, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. J'essaie de trouver une phrase pour résumer mon idée là-dessus. C'est que, si vous voulez, on ne gouverne pas l'autonomie de la recherche. On la favorise éventuellement, on l'étouffe très probablement, ça arrive très souvent, mais on ne la gouverne pas. Et tout le problème est là. Alors simplement, pour savoir comment la favoriser, c'est vrai, il faut ce débat. Moi, il me semble très très actuel, très nécessaire, et je suis très content que le livre est paru et qu'il donne les moyens à tout un chacun de voir un peu comment on discute de ces choses dans les milieux qui réfléchissent sur l'administration et les stratégies scientifiques. Simplement, ce qui m'inquiète, c'est que nous n'avons pas de langue pour parler dans ce débat. Quand on écoute ce que chacun d'entre nous avons dit autour de cette table, on n'a pas la même langue, et c'est lié à la diversité des enjeux, et il va falloir trouver un terrain de discussion. La période fondatrice de la République avait donné des cadres pour penser tout ça. C'est les mémoires sur l'instruction publique. Il va falloir poser ces questions-là homologue avec deux siècles de distance.
Alors moi, je suis tout à fait aussi d'accord. Là, il n'y a pas vraiment de débat sur ce qui a été dit par Marie Farge et par Éric Briand. Je crois qu'il faut trouver des lieux de débat. Je pense que ces lieux de débat, il faut les diversifier, c'est-à-dire qu'il faut penser aux régions, aux départements, aux associations, aux syndicats, aux lieux de travail, et bien sûr à l'école au sens large du terme. C'est là que l'on doit pouvoir débattre de ces questions. C'est-à-dire qu'il faut que nous fournissions des éléments de débat, des éléments contradictoires. Le débat, c'est de l'expertise et de la contre-expertise. Et il y a là un enjeu tout à fait important pour notre société. Mais je voudrais quand même, en cette fin d'émission, tout en remerciant les organisateurs de nous avoir donné une occasion de débattre, même si le temps ne permettait pas d'aller au fond de toutes les questions, je voudrais quand même repenser à l'échelle mondiale. Vous avez fort justement, Marie Farge, évoqué la compétition mondiale. Moi, je voudrais évoquer aussi la coopération. C'est-à-dire que le contexte mondial, c'est un contexte de compétition-coopération, avec de temps en temps plus de compétition et de temps en temps plus de coopération. Et je voudrais terminer par le Nord-Sud, parce que je crois que nous avons une responsabilité absolument fondatrice par rapport à l'évolution de la planète. Je veux dire, l'évolution des sociétés humaines à la veille du troisième millénaire, et là je dirais troisième millénaire, qui est la communication du savoir et le partage du savoir sur la planète, sans perdre pour autant de vue les problèmes de compétition. Et nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis du Sud, qui se traduit par le fait que la science, c'est la recherche, mais c'est aussi l'expertise et c'est aussi la formation, et que c'est au travers de ce triplet, d'un bon équilibre des trois dimensions, connaissances nouvelles, accumulation critique de connaissances et transfert de connaissances, que l'on peut véritablement faire évoluer les relations Nord-Sud et permettre au Sud d'accéder au même niveau de compétences que le Nord dans le siècle à venir.
C'était Le Front des Sciences, une émission de Catherine Paoletti à propos du livre de Michel Daudet, Philippe Lazard et Pierre Papon, « La République a-t-elle besoin de savants ?» publié aux Prefs universitaires de France. avec Marie Farge, physicienne, spécialiste de turbulences, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique de l'École normale supérieure de Paris. Éric Briand, maître de conférence à l'EHESS, historien des rapports entre la science et l'État, éditeur de Histoire et mémoire de l'Académie des sciences aux éditions Lavoisier, auteur de La mesure de l'État aux éditions Albin Michel, et Philippe Lazard pour son livre Statisticien et épidémiologiste, ancien directeur de l'INSERM et actuellement président de l'Institut de recherche pour le développement. Prise de son et mixage, Édouard Campras. Réalisation, Catherine Prin-Legal.